Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, on va faire quatre petites lectures. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible, on va aller à la découverte d'une pensée. Voilà, est-ce que vous entendez suffisamment? C'est bon comme ça? Alors, première lecture, nous allons la faire dans l'Épître aux Romains. Alors, Épître de Paul aux Romains, chapitre 16, verset 25. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Il y a une petite chose que j'aimerais relever, simplement avant de lire une deuxième lecture. La révélation du mystère caché pendant des siècles. Mais aujourd'hui, à travers la Bible, la prédication, eh bien, Dieu nous a levé ou a levé le voile de ce mystère, et on va en parler. Et puis, une autre lecture dans l'Épître aux Colossiens, ce qui revient à peu près à la même chose, mais avec des points particuliers. 2 Colossiens, verset 3, mais je vais commencer à la fin du verset 2. Il nous est simplement dit « enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu ». Enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alors maintenant, on va aller à l'origine, ou aux origines, de ce qui a fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui, en raison d'une recherche de sagesse et de connaissance qui n'a plus rien à voir avec ce que Dieu a révélé. Et nous allons lire dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Alors, livre de la Genèse, c'est pas difficile à trouver, c'est le premier livre. Genèse, chapitre 2. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On passe au verset 16 maintenant. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Quatrième lecture et dernière, Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers notre méditation. Elle est un petit peu particulière ce matin, mais je pense qu'elle est tout à fait conforme dans la révélation de ce que Dieu veut donner aux hommes, aux nations, puisque c'était le mot qui était dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Et puis je crois que la connaissance, elle vient par l'Évangile. Et je crois que parfois nous nous posons beaucoup de questions sur des choses qui appartiennent à notre univers, à notre monde, mais dont les origines sont clairement explicitées de par le fait de ce que nous allons dire maintenant. La chute, puisque c'est le mot qui est approprié, est un fait de sinistre mémoire qui a imprimé une marque indélébile dans la conscience humaine. Il y a cet aspect de l'homme que l'on appelle la conscience, dont d'autres l'appelleront le cœur, ou l'âme, si vous voulez, mais c'est quelque chose de très important que Dieu a mis en chacune de ses créatures humaines. Et bien naturellement, cette chute est stigmatisée par un fait qui est un fait de tout le temps, un fait permanent, aucun n'y échappe, c'est-à-dire le péché. On pourrait dire que c'est une empreinte, un sillon, une blessure, une meurtrissure profonde dans le sang, si nous voulons considérer que même nos corps en sont atteints. C'est une meurtrissure dans la chair, si l'on parle de l'âme, de la conscience et du cœur, et puis de l'esprit de l'homme, c'est-à-dire les trois dimensions, ont été finalement endommagées, et plus que cela, on pourrait dire touchées profondément. Et si nous pouvons l'appeler, si vous me permettez cette expression, le péché, c'est l'extampille du diable dans la vie des hommes. L'extampille de l'adversaire dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. C'est sa reconnaissance, c'est sa marque. C'est finalement là où on reconnaît son action d'une façon ou d'une autre, quelle que soit et de quelle manière s'exprime finalement le péché. Il est triste de dire que c'est une marque d'appartenance. On sait que la rédemption est venue pour effacer tout cela, mais néanmoins, c'est la nature générale de l'homme. C'est aussi, si vous voulez, je vais donner quelques pensées, c'est aussi l'inoculation d'un poison mortel au pouvoir de changer la nature même des êtres. D'ailleurs, heureusement, en ce qui nous concerne, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés d'une nature à une autre. Bon, vous, naturellement, vous avez fait la relation. Et c'est en quelque sorte comme une inoculation où on a mis dans le sang, dans le cœur, dans la pensée, dans l'esprit, dans les sentiments, d'une manière ou d'une autre, des hommes, quelque chose qui est voué à le détruire et de changer même ce qu'il est. Et par voie de conséquence, de briser forcément la relation entre la créature et le créateur, entre l'homme et son Dieu. Est-ce que je crois que ça serait exagéré si nous disions que la chute est la plus grande de toutes les tragédies à travers l'histoire de l'humanité? Alors on parle de tragédie, mais ce n'est que la conséquence de la première tragédie, de tout ce qui, finalement, tout ce qui peut se passer. On va en parler tout à l'heure, mais à l'origine, c'est ça. Et quand on lit le texte, peut-être pour un profane, ça paraît anodin. Oui, il a mangé un fruit, et puis voilà ce qui est arrivé. Non, non, ça va beaucoup plus loin que cela, et je crois qu'il mérite que ce matin, nous parlions de ce mystère. Parce que ça peut nous aider à comprendre. Ça peut nous aider à savoir d'où nous sommes venus, et où nous allons, et ne serait-ce que déjà pour dire merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir retiré de cet abîme, et je dirais même plus parce que les mots sont tout à fait caractérisés de cet enfer et de la mort. Donc c'est la plus grande de toutes les tragédies. Et jamais on ne pourra évaluer l'extrême gravité du désastre. Le fardeau est immense de toutes les souffrances qui sont de par le monde, de toutes les misères, de tous les déchirements, les larmes, les désespoirs, les angoisses, les deuils, les guerres meurtrières ne sauraient nous donner qu'un aperçu de l'état réel de notre humanité, et j'ajoute, déchu. On n'a pas à minimiser les choses. On n'a pas à dire oui, ça fait partie de la vie. C'est vrai, malheureusement. Mais néanmoins, il y a eu une déchéance, un changement de direction, un dévoiement de ce que devait être à l'origine notre destination en tant qu'homme. Et la Terre, il suffit d'écouter un petit peu tout ce qui se passe, de prendre les informations, n'est que cris, sanglots et gémissements. On le sait. Mais je voudrais me poser la question et nous interroger ensemble ce matin, qu'aurait été la vie sans le péché et sans le diable? C'est une façon de prendre des choses. Parce qu'on est habitué à ce qui est pour nous naturel. Mais pour Dieu, ce n'est pas naturel. Pour nous, nous sommes plongés dans cet univers et au-delà des questions, des interrogations, des perplexités qui sont les nôtres, nous chrétiens, mais aussi de tout le reste du monde, qu'est-ce qu'aurait été la vie si ça avait été autrement? Imaginez-vous un monde où il n'y aurait pas eu l'ennemi, où il n'y aurait pas eu le diable, où il n'y aurait pas eu le mal, où il n'y aurait pas eu le péché. C'est ça, le mystère de Dieu. Tout commence dans l'innocence. Je dis bien, et retenez bien les mots, dans l'innocence. Cette innocence voulue par le Créateur autour d'une famille, enfin, en tous les cas, Adam et Ève, cette innocence devait les amener à croître. Donc, il s'agit d'une croissance. C'est pourquoi il y a un jardin dans lequel ils vont travailler. Une croissance dans la connaissance de Dieu jusqu'à une pleine maturité. Une pleine maturité pour finalement vivre, non pas la mort, mais une transmutation, voire une transfiguration pour arriver à la sainteté. L'innocence n'est pas la sainteté. Et nous voyons qu'il y avait un plan bien défini, un plan de Dieu pour notre bonheur. Notre bonheur non seulement dans lequel l'homme serait rentré, non pas par la mort, mais par la vie, par une transmutation. Et en arrivant à cette maturité, eh bien, il était fait pour le ciel. Maintenant, les choses sont complètement renversées. Vous allez le voir, vous allez le découvrir. Hélas, dans le chapitre 3 de Genèse, nous nous apercevons que le péché est une maladie contagieuse. On pourra dire « je n'y touche pas à ceci, cela », non. C'est pire que tous les virus. C'est une maladie contagieuse parce que nous voyons que le premier fait qui nous est donné, c'est que c'est passé de la femme à l'homme. N'y voyez rien dans l'ordre des choses, mais c'est le fait. Donc pour montrer la contagion, la transmission, la communication du mal. Romains nous l'explique, enfin Paul dans Romains au chapitre 5 nous le dit, je rappelle ces textes parce qu'ils sont quand même importants. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. À la naissance, un enfant est innocent, mais il porte en lui les germes. Il est déjà contaminé par nature. Tous les hommes sont péchés. Sont pécheurs. La mort s'est étendue, parce qu'elle est la conséquence finalement du péché. Et jusqu'ici, autant qu'on puisse s'en souvenir, même les plus anciens d'entre nous, on n'a jamais vu quelqu'un qui a subsisté et qui est resté au-delà de la vie normale et du temps normal d'un séjour de l'homme sur la terre. Tous meurent, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, on va s'intéresser quelques instants à l'objet de la faute. Quand on lit Genèse, chapitre 2, verset 16 et verset 17, c'est les textes que j'ai lus tout à l'heure, il y a l'objet de la faute. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu ne mangeras pas de tous les arbres, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas, tu pourras manger, excusez-moi, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Voilà les choses comme elles sont dites. Et vous avez remarqué avec moi, il y a quelque chose qui est donné de la part de Dieu à Adam, c'est la connaissance. Il semblerait que cet arbre-là, qui est appelé dans différentes versions d'une autre manière, mais qui revient au même, ici il est appelé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans une autre version, il est parlé de l'arbre de la science du bien et du mal. Dans la Bible du Semeur, qui est très intéressante, il est parlé de l'arbre du choix du bien et du mal. Et ça, moi, j'apprécie. Du choix du bien et du mal. Et c'est ce qui se passe, d'ailleurs. Dans Genèse 3, c'est véritablement les choses qui nous sont présentées. La signification du nom de cet arbre. Connaissance, science, choix du bien et du mal. Son nom a été donné en raison de l'effet que produirait la désobéissance du toucher à son fruit. L'arbre lui-même est le fruit. Tu ne mangeras pas, avait dit Dieu. Et nous devons le comprendre comme un ordre préventif. Comme dans le code de la route, vous avez des panneaux préventifs. Ils vous avertissent avant du danger, du péril. Et cet ordre a été donné préventivement, mais en impliquant dans celui qui reçoit cet ordre d'avertissement, en impliquant l'amour et la confiance de celui qui a donné l'ordre. Comprenez ce que ça veut dire? En impliquant pour Adam de faire confiance et d'aimer celui qui lui a donné cet ordre, de ne pas aller au-delà de la frontière qu'il ne fallait surtout pas franchir. C'est toute la subtilité du mystère dont nous allons parler. Il faut savoir qu'Adam et Ève en Éden vivaient dans un état semblable à l'enfance, l'innocence. Je le répète, ils n'étaient pas saints. La sainteté allait venir par le développement et toutes sortes de choses. Et comme on n'a pas su comment ça se passait, on ne peut pas en parler savamment aujourd'hui. Mais par contre, on sait comment ça s'est passé dans l'autre sens et on en connaît les conséquences. Alors, il y avait un état d'innocence, je l'ai dit. Dans le plan bienveillant de Dieu à l'égard de sa créature, le processus de croissance passait donc par l'innocence, puis une connaissance progressive, connaissance que Dieu se réservait de dispenser au temps marqué, comme nous le faisons avec nos enfants. Il y a le nouveau-né, il y a le nourrisson, il y a le bébé, il y a le petit enfant, il y a après, il va grandir, garçonnet, fillette, ensuite il va y avoir la préadolescence, il va y avoir l'adolescence. Et puis il y a tout un cheminement comme ça. Il va y avoir le jeune adulte, il va y avoir l'adulte fait, l'adulte dans la ville, l'âge du milieu. Et puis après, il y a tout un autre processus qui est celui qui va nous emmener. Et il est bien question que si vous tentez de raisonner à un enfant, de lui expliquer quelques données philosophiques à 5 ans, il va falloir que vous atteliez quand même. Ça viendra. Enfin, quand je parle de ça, c'est une connaissance générale. Mais certaines choses, certaines données d'éducation pour préparer sa vie, il y a un temps à tout. Et même dans le mal, pour le prévenir par rapport au mal, par rapport à des réalités mauvaises, eh bien il y a des choses qu'il faut attendre. Vous n'allez pas expliquer des choses qui n'appartiennent qu'à la vie adulte, à un enfant. Il arrivera lui-même à un moment ou à un autre Et c'est un rôle aussi que nous avons en tant que parents. On s'aperçoit qu'il y a de grandes lacunes dans l'éducation des enfants par rapport aux parents, parce que les parents ne savent pas dire les choses, ou ils ne veulent pas le dire, pour différentes raisons, parce que ça touche à des intimités, ça touche à des choses comme ça. Je ne voudrais pas vous choquer, hein, mais nous qui accompagnons les jeunes, particulièrement au mariage, on s'aperçoit qu'il y a une ignorance, et cette ignorance, elle est terrible, je voudrais vous le dire, parce que quelquefois, ils sont partis sur des bases qui étaient complètement des bases mondaines, des bases tordues, des bases qui étaient complètement, mais alors, loufoques. Et ils pensent que finalement, eh bien, certaines choses qui appartiennent à la vie du couple, eh bien, c'est comme ça parce qu'on ne leur a pas donné autre chose. Et ça, c'est dommage. Et quelquefois, il y a des catastrophes qui arrivent parce que, bon, les choses n'ont pas été données. Mais ça arrive qu'en son temps. Ça arrive comme il convient que ça arrive. Et moi, je crois que dans le processus, dans le tempo, dans le planning de Dieu, dans les choses qui devaient être faites, eh bien, Dieu se réservait à un moment ou à un autre pour Adam et Ève de les amener au temps marqué, finalement, une connaissance. C'est pourquoi il l'a mis dans un jardin, pour lui apprendre certaines choses. Donc c'est le travail. Le travail éduque, quelle que soit la nature du travail, hein, naturellement. Or, par suite de la séduction, la convoitise, le désir d'intelligence, parce que c'est dans le programme, c'est-à-dire en d'autres termes de vouloir savoir plus que l'on est capable de savoir, ou capable de supporter dans le savoir. Et ça, c'était le travail insidieux du doute. Est-ce que Dieu a réellement dit, figurez-vous? Et tout a commencé là. Hein. Ce que nous sommes aujourd'hui, le monde tel qu'il est, c'est que ça a commencé avec une voix maléfique, une voix diabolique et infernale qui a posé cette question, mais est-ce que Dieu a réellement dit? Et ça, ça s'appelle le doute. Alors le fruit de l'arbre a été ravi avant le temps, un fruit vert, un fruit amer, un fruit qui n'était pas comestible, un fruit qui était empoisonné. Et tout cela par un acte de désobéissance, parce qu'au lieu de faire confiance et d'aimer celui qui avait donné cet ordre préventif, eh bien, tout ça, ça a été dépassé. Et à cet ordre divin s'offrait une alternative, c'est-à-dire deux choses. Soit l'homme désobéissait, c'est ce que nous savons, et Dieu avait voulu l'éviter en lui donnant ce que nous savons et ce que nous avons lu. Alors, à ce moment-là, l'homme désobéissait. Il lui fallait désormais apprendre à connaître le mal par, c'est essentiel, par l'expérience. Connaître le mal par l'expérience, c'est ce que nous faisons tous les jours. Hein. On connaît le mal par l'expérience, et le mal fait mal. Le mal blesse, le mal brûle, le mal consume. C'est toute notre vie, c'est la vie du monde. Puisqu'on est sorti du cadre, eh bien maintenant vous allez connaître le mal par l'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut plonger dans le mal. Mais on n'a pas besoin d'y plonger soi-même. Nos enfants nous font mal. Ceux qui nous sont autour de nous nous font mal. Et on le fait par l'expérience. Et on est dans un monde qui est terrible à cause de ça. Connaître le mal par l'expérience. Et Dieu aurait voulu, mais de dire, non, ne fais pas ça parce que tu vas te faire du mal. Mais qu'est-ce que nous faisons avec nos enfants? On leur dit, ne touche pas ça. Ne fais pas ceci parce que tu vas te faire du mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils le font quand même. Ça, c'est le mystère de Dieu caché et révélé pourtant. Et expérience, connaissance du mal par l'expérience et de ses tragiques conséquences. Et puis, par ailleurs, dans l'autre sens, à apprendre à connaître le bien comme un bonheur perdu. Parce que ça, c'est le corollaire d'apprendre le mal par l'expérience, mais d'un autre côté de dire, eh bien voilà, ça m'a échappé. Voilà, c'est terminé pour moi. Et de connaître le bien comme un bonheur perdu, alors on le regarde, on le cherche. On le cherche désespérément dans notre monde. Hein. Regardez ce que les gens sont prêts à faire pour avoir le bonheur, pour retrouver un petit peu la paix, pour retrouver la joie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle de joie, de bonheur et de paix? Quelquefois, c'est entaché de dépravation, de toutes sortes de choses malhonnêtes, hein, qui n'ont plus rien à voir avec la volonté de Dieu. Et nous soupirons aujourd'hui, et c'est terrible, dans notre nature humaine, nous soupirons après le bien comme quelque chose de très difficile à atteindre. Écoutez Paul quand il dit « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » On ne se reconnaît pas à travers tout ça quand même, quelque part, un petit peu? Certainement. « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » Alors, nous allons examiner brièvement la position de l'humanité perdue, la nôtre, hein. Dans l'Épître aux Éphésiens, si je me souviens bien, c'est l'apôtre Paul qui dit cela. ils ont l'intelligence obscurcie. Alors que le diable avait dit, votre intelligence s'ouvrira. Vous comprendrez tout, vous aurez la connaissance de tout. Mensonge, tromperie, séduction. Et la parole de Dieu nous répond, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont le cœur endurci. Il nous a menti, hein, le diable. Parce qu'en fait, finalement, c'est l'inverse qui s'est passé. Tout en niant la réalité de la tare originelle, l'homme pécheur va élaborer une multitude de systèmes et de moyens de salut à travers des religions, à travers des philosophies, à travers des théologies, à travers des politiques, des économies, toutes sortes de choses, et tenter de se hisser au niveau qui le mettra à l'abri des vicissitudes et des conséquences de l'existence et d'une existence mauvaise. La société s'est frayée un chemin dans l'histoire. Les sociétés se sont frayées un chemin, mais tant bien que mal, au prix de guerre, au prix de sacrifices, au prix de sang, au prix de toutes sortes de drames. C'est vrai que nous sommes dans des sociétés évoluées. Enfin, disons-nous. Mais à quel prix? Et les hommes se sont dit, mais on retournera dans le paradis perdu. Les utopistes du 18e, le siècle des Lumières, hein, se sont dit, eh bien, finalement, on n'a pas besoin de Dieu, c'est le remake de la tour de Babel. Et avec notre science, avec notre technologie, avec nos découvertes, avec nos inventions, avec les progrès de l'homme sur le monde, sur la nature, eh bien, un jour, on retournera dans le paradis perdu. On en voit les effets, hein. Aujourd'hui, on le connaît, hein. Et c'est toujours la même bagarre, c'est toujours le même drame que nous vivons. Et ce n'est que le résultat du jugement prononcé dans Genèse chapitre 3. Tu mourras. Si tu y touches, tu mourras. Et là, il y a une chose qui n'a jamais changé dans le monde, c'est que la mort est toujours là. Elle n'a pas bougé. Et tout ça en essayant d'atteindre les sommets du bonheur. Nous voulons être heureux. Nous désirons le bonheur à tout prix. Et nous ferons tout ce qui est possible en notre pouvoir pour être heureux. Le bonheur. Ce n'est que dans les consciences, dans les cœurs, dans les souffles, les poitrines, finalement, que la nostalgie du paradis perdu pour un monde, finalement, qui a rejeté Dieu. Et on le sait très bien que sans Dieu, il n'y a pas la vie. Nous ne sommes, et le monde n'est qu'un rameau, peut-être avec quelques belles fleurs de temps en temps, mais coupé de la racine, et ça ne dure pas longtemps. Ça ne peut pas durer. Alors l'homme cherche à refaire, il cherche à retrouver le bien, le bonheur, la paix, la joie, mais sans Dieu, mais sans Dieu. Alors il a multiplié le savoir, il a multiplié la connaissance, la sagesse, il a multiplié la science, il a multiplié la culture, toutes sortes de choses dont il est capable, et il en est capable puisqu'il a le produit même de ce que Dieu lui a mis à l'intérieur de lui-même, une sagesse qui, quand même, au départ, vient de Dieu, mais sans celui qui en est l'inspirateur, celui qui peut le guider. Alors, il a essayé de chercher. Et pourtant, en suivant cette voie, Dieu parle encore à l'homme. Et il parle encore par la bouche de Paul aux Romains, quand il dit ceci, puisque l'homme se fait de sa science, de son intelligence, son Dieu. Alors, Dieu va sanctionner, il va dire d'une manière haut et forte, il va dire, mais je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents, avec comme une forme de, mais où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et pourtant les gens disent, on est sage quand même. Le monde est fou. Mais les gens disent, mais nous sommes sages. Nous sommes sages. Folie. Folie qui rappelle la première faute dont l'objet était une connaissance mortelle. Mais ce n'est pas la bonne. Et aujourd'hui, ce n'est toujours pas la bonne, parce que je peux vous dire que tous les problèmes mondiaux, internationaux, tous les problèmes humains, tous les problèmes de société, tous les problèmes raciaux, tous les problèmes économiques, financiers, tout ce que vous voulez, enfin des problèmes, il y en a, hein, je ne veux pas les citer tous, parce qu'on pourrait y passer le jour et la nuit, Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y aurait longtemps que tous ces problèmes auraient été solutionnés. Si véritablement, eh bien, il y avait eu le souffle de Dieu et la lumière de Dieu. On n'est pas au bout de nos surprises, vous allez voir. Que dire de 6000 ans d'humanité avec des empires, avec des conquêtes, avec des défaites, avec des détresses, avec tout ce que vous voulez. Que dire de 6000 ans d'humanité à la recherche de la vérité et du bonheur? Quel aboutissement? Eh bien, si l'on écoute le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 1er, verset 18, on l'a cité il n'y a pas longtemps, « Avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. » On se donne quelquefois quelques espaces de soulagement, mais ça ne change rien. La solution, elle n'est pas là. Les problèmes fondamentaux ne sont toujours pas résolus. Il y a des conquêtes, et nous pouvons bénir le Seigneur de ce qu'il y a des conquêtes sur la mort, sur la maladie, des choses qui sont gagnées, certainement. C'est vrai, mais ils sont vite défaits. Ils sont vite défaits. Et l'homme de notre génération y croit plus que jamais. On chante et on déchante. Quand on voit le monde dans lequel on est rentré, c'est époustouflant parce que nos grands-parents verraient la manière dont nous vivons aujourd'hui, ils diraient, mais oh là là, on n'a jamais... Vous ne pouvez pas l'imaginer, ce n'est pas possible. L'informatique, les ordinateurs, la technologie spatiale, l'énergie nucléaire, et puis des choses qui sont peut-être beaucoup plus simples, mais qui sont des formidables révolutions. Alors on parle de progrès éblouissant, d'avancement considérable, et on en est très fier. Dans une certaine mesure, c'est peut-être vrai, c'est vrai, d'accord. Mais inversement, ne pourrait-on pas plutôt parler de retard, de perte inestimable due à la folie humaine? Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas eu les guerres? Vous vous rendez compte s'il n'y avait pas eu toutes ces choses abominables qui se sont passées, qui se passent encore aujourd'hui? Si l'homme était resté dépendant de Dieu. Ah là, je ne peux pas vous donner l'explication parce que je ne sais pas comment ça se passe. Mais on peut au moins penser, essayer de percer, essayer de comprendre un tant soit peu, s'il est possible, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu et les bons sentiments de Dieu, si véritablement nous étions restés dépendants de lui. On en a retrouvé, nous chrétiens, on peut déjà dire quelque chose. C'est ce qui nous fait louer et bénir le Seigneur quand même. Mais on reste quand même dans un monde profondément corrompu. C'est vrai. Toutes ces merveilles, à commencer par la création. Tous ces trésors qui sont là devant nos yeux et qui sont peut-être encore enfouis, cachés. Les secrets de l'univers seraient découverts depuis longtemps pour le bien et non pour la destruction de celui-ci. Ouais. On se dit en avance, mais sommes-nous vraiment en avance? Est-ce que nous sommes alors de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement dans ce plan qui a capoté, ce plan qui a chuté, ce plan de Dieu? Où en serions-nous? Où en serions-nous aujourd'hui? Ça, c'est la question que nous pouvons nous parler. Et Paul parlera d'un enfantement long et douloureux dans Jean, vous savez? Eh oui, c'est comme ça. Toute la vie, nous pourrions dire, a été frappée d'un coup d'arrêt. Réduction dans sa durée, c'est quand on voit le livre de la Genèse. Vous vous rendez compte, les vies des premiers, là, et 700 et quelques années... Imaginez-vous un peu. La vie a été réduite, enfin les progrès ont été ralentis, et des recherches fastidieuses. C'est ce que nous dit finalement le chapitre 3, verset 22 du livre de Genèse. Dieu a mis des chérubins avec des épées flamboyantes. Enfin tout ça, ça pourrait être reconsidéré, et ça ferait l'objet simplement aussi d'un message. Notre monde de sagesse est fait d'hommes qui souffrent et qui meurent. Monde qui risque fort de s'égarer encore, bien plus loin et davantage. Puisque, si j'en crois, Paul, dans son analyse sur la nature humaine, dira « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Dans Timothée, toujours le même Paul, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Nous, chrétiens, lorsque nous avons à juger ou à porter une appréciation sur ce que nous entendons de ce qui se fait dans le monde, surtout en matière théologique. Quand il parle de Dieu, quelquefois on se dit, mais c'est pas vrai. On se dit, mais il ferait mieux de lire la Bible, de reprendre l'Évangile. Et puis là, ils auraient des réponses au lieu de dire n'importe quoi. Et de partir en spéculations qui n'ont plus rien à voir. Ah oui, ils ont la connaissance, mais une connaissance qui vient d'Éden. Enfin, qui vient du jardin, de la chute. Alors, connaître Dieu par l'intelligence est une voie qui est à jamais fermée. Vous vous souvenez ? De grands empires se sont effondrés, victimes de leur orgueilleuse et prétendue sagesse. Et on le sait, l'histoire est là pour nous le dire. Alors je voudrais prendre une image maintenant. Je vais la prendre, je vais la dire, parce qu'elle n'est pas forcément très facile à saisir d'emblée. Mais je voudrais la montrer de cette manière. L'humanité est dans une position critique de quelqu'un. C'est comme si quelqu'un se trouvait dans une situation de danger, qui aurait fait une chute au fond d'un précipice. Il marchait sur un chemin, il est tombé au fond. Et regardant finalement la hauteur du sommet, parce qu'il est tombé, mais il regarde le sommet auquel il aurait pu parvenir. Donc, un homme, il tombe, et quand il est tombé, il regarde. Et il faut remonter maintenant. Voilà la vision un peu. Mais voilà, il veut y arriver avec ses propres capacités. Il se dit, je vais reprendre des forces et je vais gravir. Mais au lieu de monter, il est descendu. Et j'ai bien dit, un précipice. C'est autre chose qu'un fossé. Son savoir, eh bien, il veut le mettre en avant. Il se dit, c'est avec mon intelligence, avec mes capacités intellectuelles. Et là, je vais faire tout ce que je peux faire avec mes forces physiques. Mais je vais mettre tout ça à contribuer pour remonter jusqu'au sommet. La deuxième hypothèse. Au contraire, si l'homme avait obéi, il aurait appris la connaissance du bien par l'expérience. Tout à l'heure, je vous ai dit le contraire, l'expérience du mal par la connaissance. Il aurait appris la connaissance du bien par l'expérience et ses bienfaits. Et il aurait appris à ce moment-là à connaître le mal par la vue du danger auquel il avait échappé. Saisissez un peu. C'est tout à fait différent, ça. C'est que nous sommes dans une situation complètement à l'inverse du plan de Dieu. Enfin, le monde est à l'inverse du plan de Dieu. Je dis bien que, à ce moment-là, s'il avait obéi, il aurait appris la connaissance du bien par l'expérience en disant, mais Seigneur, merci, c'est extraordinaire. Au lieu de gémir de maugré, de se révolter et d'être en rébellion, il aurait été le contraire. C'est ce que nous faisons, nous. C'est-à-dire que nous bénissons le Seigneur. Et là, nous aurions appris à connaître le mal par la vue du danger auquel nous aurions échappé. Et c'est ce qui nous fait dire que parce que nous sommes des rachetés et que nous sommes sauvés, nous bénissons le Seigneur pour nous avoir sauvés. Et de nous avoir arrachés à la mort et à l'envers. À l'enfer, pardon. À l'enfer. L'image peut être inversée également. De même que du haut d'une cime, on mesure la profondeur de l'abîme où on aurait pu tomber. Merci Seigneur de ce que je suis en haut et non pas en bas. Et de ce que, à travers la repentance, la nouvelle naissance et la conversion, le Seigneur nous a mis en haut, de bas où nous étions. Et quand nous regardons vers le bas, on dit, mais merci Seigneur de nous avoir sauvés. Ça va ? Quelquefois, c'est pas facile pour moi aussi à expliquer. Hein. Et là, c'est le contraire qui s'est passé. Le bien par l'expérience. C'est la reconquête du croyant né de nouveau, je dis bien pas un chrétien de nom, mais la reconquête eh bien, du croyant né de nouveau, parce que la pratique du bien, elle est salutaire et elle est profitable. Si nous faisons le bien, Dieu nous bénira. On est d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui disent, on peut faire le mal et puis Dieu nous bénira quand même. Ben, vous m'excuserez, moi je sais une chose que l'on m'a apprise. C'est que Dieu pardonne tous les péchés, je dis bien, Dieu pardonne tous les péchés, mais il ne bénira jamais une désobéissance. On est d'accord là-dessus ? Jamais il ne bénira une désobéissance. Pas possible. Apprendre à connaître le mal par la vue du danger qu'il représente. Et quel est ce danger mortel ? Quel est ce danger mortel ? Parce qu'il y a l'homme, il y a Dieu, mais d'où vient le danger mortel ? L'homme était-il suffisamment mûr pour supporter la réalité de l'existence du mal qui n'était pas encore venu sur la terre par le jardin d'Éden et la désobéissance. Ça, c'est une grande question. Je ne vais pas vous livrer un secret, mais moi, entre le verset 1er et le verset 2 du livre de la Genèse, il y a un monde entre les deux. Tout un monde. Alors, quel est ce danger mortel? Dieu est un bon père. Et il agit comme nous. En tant qu'homme, nous agissons avec nos enfants. Je l'explique de cette manière. Un verre d'alcool sera assimilé par un adulte, mais il sera fatal pour un jeune enfant. Et il y a des vérités, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas donner à Adam au moment de sa création. Il fallait qu'il progresse. Et après, il aurait eu certainement la connaissance d'une réalité qui était cachée à l'époque, mais Dieu lui aurait révélé pour pouvoir se défendre. Mais il fallait qu'il le fasse dans la maturité et que là, il puisse à ce moment-là gérer le problème. Pouvoir gérer le problème avec la grâce de Dieu, dans la confiance et dans l'amour de Dieu, de ce que Dieu lui avait dit. La réalité cachée était la suivante. C'est ce que Paul appelle le mystère de l'iniquité. Verset 3. Le serpent était le plus rusé. Et j'ai regardé dans une traduction en préparant le message. Le serpent était le plus perfide, nous dit, ce doit être le rabbinat. Était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il nous faut voir, et je dis bien le mot qui suit, il nous faut voir derrière cet animal qu'un instrument aux mains d'un ennemi redoutable. Satan. Je dis bien Satan. Être spirituel, pensant, intelligent, doué de capacités extraordinaires mais limitées. N'ayez pas peur du diable, hein. Dieu est souverain. Dieu est plus fort que lui. Et l'entrée en scène du diable aux premières heures de l'humanité est à l'image de sa condamnation et de sa déchéance. La Bible rapporte dans Jude que des anges n'ont pas gardé leur dignité, mais ils ont abandonné leur propre demeure. Et selon l'apôtre Pierre qui rajoute que Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Une autre tragédie a dû se jouer dans les lieux célestes retracés dans Ézéchiel chapitre 28. Ça vous dit quelque chose? 28e chapitre d'Ézéchiel. Donnant naissance à ce que nous nommons aujourd'hui guerre et rébellion. Mais il ne s'agit pas d'une guerre au niveau humain, au niveau terrestre, mais d'une guerre cosmique, d'une guerre spirituelle. Guerre entre le diable et Dieu, et Dieu, et ensuite, guerre entre le diable, l'humanité associée et Dieu. Je dis bien l'humanité associée, parce qu'on est associé avec qui quand on n'est pas converti ? On est associé non pas avec Dieu, on est associé avec le diable. On est associé avec le diable sans le savoir. Enfin, sans en prendre tellement conscience, en tous les cas. Je vous invite brièvement à lire dans Ézéchiel ce qui se passe. Parce qu'il y a des choses quand même qui peuvent être intéressantes à prendre en considération. Parce qu'il s'agit d'un portrait. Un portrait certes voilé qu'il faut découvrir, qu'il faut dévoiler, mais c'est un portrait quand même. Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. Alors ça se passe naturellement dans une configuration humaine, mais derrière, les commentateurs, pratiquement tous unanimement, les commentateurs s'accordent à dire que c'est une autre vérité qu'il faut découvrir. Écoutez bien, Ézéchiel 28, verset 12. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. » Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Donc, il s'agit d'un homme, mais ce n'est pas un homme. Hein. Tu étais, enfin une créature, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarbousse, d'émeraude et d'or. C'est un petit peu comme ce qui se passe au début de la création et puis dans le livre de l'Apocalypse. Hein. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. La musique compte beaucoup hein, dans l'histoire. Hein. préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans toutes tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. C'est pas un homme. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. On n'appelle pas un homme chérubin. Du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, ou si vous voulez, je te jette sur la terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Et là, vous y voyez la croix derrière. La solution de Dieu, c'est la croix. Mais j'avance de trop là. Splendeur originelle, tu mettais le sceau à la perfection, plein de sagesse, parfait en beauté. Créé dans un cadre minéral incomparable. Vous savez, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Si vous leur parlez de pierres précieuses, de bijoux, de diamants et... Les gens sont à la recherche, on va pas nous, mais bon, le monde court après tout cela. Et c'était préparé spécialement pour lui. Son éminente position, il est établi comme ministre de Dieu, puisqu'il est déclaré « Tu étais chérubin protecteur », qui implique un rang céleste, ou le rang céleste le plus élevé chargé de diriger l'adoration de l'univers. J'insiste, l'adoration de l'univers. Parce que Dieu n'est pas seulement le créateur de la terre, il est le créateur de l'univers entier. On le chante dans nos cantiques. Là est peut-être sa chute, être de lumière devenu ténèbres. Lucifer, ange de lumière, qui va s'appeler, par changement de son nom, Satan, adversaire. Adversaire. Lumière devenue ténèbres. Les versets que nous avons lus, 15, 16, 17 et 18, soulignent la corruption et la déchéance de l'adversaire. Dès lors de sa chute, dépossédé de ses attraits glorieux, le diable n'a pour unique ambition désormais que de corrompre, que d'entacher, que de détruire toute œuvre divine, dont, et en particulier celle de l'homme. C'est-à-dire, nous sommes la création de Dieu. Et il a trouvé dans l'homme un moyen de se révolter contre Dieu. Et en retournant la créature contre le Créateur. Et pourtant Dieu avait dit, en constatant sa création, chapitre 2, pas chapitre 3, chapitre 2 de Genèse, Dieu a regardé, il a dit, il vit que tout était très bon, mais il n'a pas dit que tout était parfait, ou que tout était saint, S-A-I-N-T. Tout était très bon, mais, le diable va y parvenir par la séduction et par le mensonge, pour ensuite faire la guerre. C'est comme ça que ça se passe. À l'origine de tout ce que nous connaissons dans notre monde, ça vient par la séduction et le mensonge. Vous serez comme Dieu. Vous vous rendez compte? Quelle proposition, vous serez comme Dieu. Ça fait gonfler la poitrine, hein, d'orgueil et de fierté. Drame de la rébellion aux conséquences infinies, puisque cette révolte céleste a entraîné le ralliement de créatures angéliques, puisqu'il nous a dit qu'il y a des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Et le diable n'a pas fait seulement la révolte sur la terre, il a fait la révolte dans le ciel. Et c'est ce que l'on appelle, si vous voulez me permettre, il y a peut-être d'autres noms, mais les démons et les esprits impurs. Tous ces esprits qui sont là autour. Et si vous voulez en avoir une idée, eh bien vous lisez Éphésiens, toujours l'apôtre Paul, chapitre 6, et il parlera que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des principautés, des autorités et des esprits méchants dans les lieux célestes. Satan en est le chef. Ange devenu démon. C'est-à-dire, le but du diable, c'est de multiplier ses complices pour être l'objet de leur adoration. Au lieu que l'homme et la créature humaine adorent Dieu, eh bien le diable va se faire passer pour Dieu et pour avoir l'allégeance des hommes. Et des anges, de ses anges à lui en tous les cas. C'est un rêve de domination, d'ambition, de puissance, qui est cultivé dans ce que l'on appelle le satanisme, dans cette science d'occulte, tentant de ravir l'honneur, la gloire, la puissance qui appartient qu'à Dieu seul. Je vais bientôt terminer. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas de l'arbre, si vous voulez, on peut le dire comme ça, de la science du bien et du mal, ou du choix du bien et du mal. Cette chose devait venir plus tard, pour que l'homme puisse dire non devant le mal. Mais il était pris dans son innocence, et il a été trompé. Il est responsable. C'est vrai. Et c'est pourquoi il y a un salut pour l'humanité, mais il n'y a pas de salut pour le diable. Il n'y a pas de rédemption pour le diable. Les hommes ont été trompés, nous avons été trompés, nous avons notre responsabilité, c'est vrai. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas se sauver soi-même, il fallait que quelqu'un meure à notre place, et je vais terminer là-dessus. L'acquisition de la connaissance du mal a coûté très cher, le prix de notre asservissement sous la botte du diable, qui nous a piétinés et qui continue à piétiner les corps, les âmes, les esprits. Car il a induit l'homme en erreur, et l'homme l'a cru. Au lieu de mettre sa foi en Dieu, l'homme a mis sa foi dans le diable sans savoir. Mais il l'a mis quand même, il a cru au mensonge plus que la vérité. Plus que la vérité. Là est la faute de l'homme. Et la rédemption, elle repose sur la foi. Veux-tu croire ou ne veux-tu pas croire? Si tu crois, tu es sauvé. Si tu ne crois pas, tu restes perdu. C'est pas plus difficile que cela. C'est pour ça que c'est pas basé sur les bases, enfin, ce n'est pas fondé sur la base du mérite, de la qualité. Ça ne marchera jamais. C'est basé sur la base de la foi que nous recevons le salut par grâce, tout simplement. Dans Jean, chapitre 8, verset 44, il nous est dit, et Jésus donne un réquisitoire, enfin un diagnostic. Il dit, on se parle du diable, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge. Et là, nous revenons toujours à cette éternelle suggestion qui a résonné dans les oreilles d'Ève, ensuite d'Adam, et de nous-mêmes, et des hommes d'aujourd'hui. Dieu a-t-il réellement dit? Mes frères et sœurs, il n'y a qu'une chose qui, véritablement, est notre garantie, c'est notre foi. Je crois en Dieu, parce que Dieu me dit la vérité, parce qu'il tient parole, parce que je sais que c'est lui qui dit la vérité. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas aller chercher autre chose. Parce que le doute, eh bien... le doute chasse la confiance, il met en pièce l'amour, la foi, et c'est le même scénario qui s'est passé pour Jésus, lui le vainqueur, Adam le vaincu, avec toute sa race dont nous sommes, et Jésus le vainqueur, même suggestion de doute, quand le diable s'est présenté au désert pendant 40 jours, eh bien si tu es le fils de Dieu, toujours la même chose, Adam a voulu savoir, et il a su. Mais non seulement il a su, mais il a vu. Il a vu les conséquences. Parce qu'il nous est dit dans le texte, leurs yeux s'ouvrirent. On l'a lu tout à l'heure, hein, leurs yeux s'ouvrirent. Et qu'est-ce qu'ils ont vu à ce moment-là? Eh bien, ils ont vu la triste et déplorable réalité de leur misère dans laquelle ils étaient désormais réduits. Parce que finalement, c'est une prison, hein, la vie. C'est une prison. Alors depuis, il n'a jamais cessé de tromper et d'illusionner les gens en leur faisant marcher soit la carotte ou le bâton, la souffrance ou la jouissance. Allez-y, venez. Si vous ne marchez pas avec moi, je vous matraque. Si vous marchez avec moi, je vous donnerai tous les royaumes de cette terre, etc., etc. C'est le même principe qui se passe. L'adversaire a tué l'humanité à son aurore, dans son innocence. De même que 40 siècles plus tard, le même adversaire, toujours caché, mais bien réel, machinera un odieux massacre d'enfants innocents. Je vous ai dit qu'Adam et Ève, c'était des enfants, sur le plan, peut-être pas physique, mais en tous les cas sur le plan moral et psychologique. Eh bien, 40 siècles plus tard, il réitérera le même scénario, le massacre des enfants innocents de Bethléem, pour faire périr, eh bien, celui qui, parmi eux, deviendra son sauveur en puissance. Quand on reprend la Bible de cette manière, quand on la lit de cette façon, on dit, mais Seigneur, quelle situation, quel monde et quel plan! Comme 30 années après la naissance de cet enfant, Jésus, qui échappera au massacre, eh bien ce même diable, ce même Satan, enverra un innocent mourir sur une croix, alors à son insu, sa défaite sera totale. Et c'est là où le diable croyait avoir vaincu le Rédempteur, Jésus, le crucifié. C'est là qu'à travers la résurrection, eh bien tout repart, mais dans le bon sens. C'est pas la mort, c'est la vie. Et c'est la vie que nous avons aujourd'hui. la vie que nous avons aujourd'hui. Parce que le drame du jardin d'Éden a été comblé par la croix. Et c'est pour cela que quand nous parlons d'un vieil Adam et d'un nouvel Adam, d'un vieil homme et d'un nouvel homme, mais on parle de ce que nous disons ce matin. Le plus grand défi a été relevé par Jésus. Et l'acte de victoire a été consigné dans Colossiens, chapitre 2, verset 15, c'était le plus beau verset de la Bible probablement. Il nous est dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ouais. La mort de Jésus nous donne la vie. Le triomphe sur le diable, sur le mal, sur tout ce que vous voulez. Et en conclusion, nous pouvons dire à ce moment-là, et j'adhère avec ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, Jésus a été fait pour nous sagesse, la vraie sagesse, pas celle dont nous avons parlé tout à l'heure. Il a été fait pour nous justice, et la justice de Jésus s'est manifestée parce qu'il est mort à notre place, et que la justice de Dieu a été accomplie parce que Jésus a répondu à cet appel. Et rédemption, parce que nous avons été rachetés, nous sommes coupables, mais quelqu'un a payé le prix de notre rançon pour que maintenant, nous rentrions dans la maison du Père. Et sanctification, sagesse, justice, rédemption, sanctification. Alors pour en tirer cette dernière phrase, c'est que la connaissance dont le diable a voulu, dans laquelle le diable a conduit les hommes, qui se sont laissés avoir, la connaissance ne conduit nécessairement pas à la vérité. Ça, c'est une vérité fondamentale. Je répète, la connaissance ne conduit pas nécessairement à la sainteté. À la sainteté. On l'a vu. Tandis que la sainteté conduit toujours à une saine et sainte connaissance du Dieu créateur et du Dieu sauveur. Et ce n'est qu'un juste retour de ce qui n'aurait jamais dû se produire si l'homme n'avait pas porté attention à la voix de l'ennemi. Alors moi je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nous sommes sauvés. Nous croyons à cette parole qui est la Bible et qui est la vérité et qui, d'une manière très simple, enfin, nous a encore expliqué et explicité le prix et la valeur de notre salut. C'est pourquoi il est question de mystère. Mais ce n'est pas un mystère. Et c'est pourquoi que non seulement nous avons cru à ce mystère, maintenant il n'en est plus un et nous devons le porter à tous les hommes qui sont autour de nous pour qu'ils passent finalement des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu et qu'ils reçoivent le pardon des péchés. C'est Paul qui le dit dans Actes. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité. Merci Seigneur parce que tu nous as amenés dans un survol ce matin. Tu nous as amenés, Père éternel, à considérer, eh bien Seigneur, l'alpha et l'oméga. On peut dire cela comme ça, le commencement et la fin. Mais en tous les cas, une chose que nous voulons te dire les uns et les autres, pour autant, Père éternel, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conforte dans nos cœurs, nous voulons te dire, Seigneur, ce matin, oui, Jésus, moi je te le dis pour moi-même, mes frères certainement s'y associent, merci de nous avoir donné Jésus comme rédempteur, celui qui pardonne les péchés et celui qui aujourd'hui me fait rentrer dans la vraie vie, la vie éternelle, non seulement, Seigneur, parce que, en effet, tu m'as donné, Père éternel, ta grâce, mais tu m'as appris cette connaissance saine, cette connaissance juste qui vient, Seigneur, et vient de l'Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bénis mes frères et mes sœurs. Amen. Amen.